Racines du ciel, une émission de Lily Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Manuel Couturier. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marc Alizard pour parler de protestantisme et pop théologie. Je n'ai pas trouvé d'autres titres, mais enfin, peut-être nous trouverons un titre en cours de chemin, Marc Alizard, ou en tout cas de l'esprit du protestantisme. Alors, esprit avec un E minuscule ou avec un E majuscule, là aussi on pourra en discuter. Donc, de l'esprit du protestantisme et de son influence tous azimuts sur la société du spectacle, des loisirs et de la communication. Bonjour Marc Alizard.
Bonjour Lily.
Vous avez exercé, vous exercez toujours, diverses fonctions dans le milieu de l'art contemporain, du design et de la mode. Vous avez collaboré avec le Centre Georges Pompidou, vous avez été directeur adjoint du Palais de Tokyo, conseiller du ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, et désormais collaborateur au groupe LVMH. Vous êtes cofondateur, et ça c'est très important, de la revue Fresh Theory, ou Fresh Théorie, je ne sais pas comment il faut
en français,
le prononcer. Vous avez aussi dirigé le catalogue de l'exposition Traces du Sacré qui s'est tenue au Centre Georges Pompidou. Vous avez publié en 2015 un essai étonnant et détonnant, stimulant et inspirant, décoiffant même, au titre tout aussi singulier d'ailleurs, Pop Théologie. Dans cet ouvrage, vous tentez de montrer de manière, ma foi, enfin j'ose plus employer le mot ma foi depuis que je vous ai lu, mais enfin de manière, ma foi, assez convaincante, que la postmodernité, loin d'être désenchantée, marque une nouvelle étape dans le processus de sécularisation ascétique engagé par le protestantisme tel qu'il fut renouvelé par les piétismes européens du XVIIIe siècle. Alors ça, c'est dans votre page Wikipédia, cette phrase, hein, je l'avoue. Pour vous, la modernité et après elle la postmodernité sont une tentative de réveiller le réveil, tel qu'il fut conçu par le piétisme, de réactiver la promesse du protestantisme originel, qui est devenue au fond celle de l'Occident capitaliste et consumériste, et, par la diffusion de la culture américaine, celle du monde entier. En somme, nous sommes tous protestants, même sans le savoir, même quand nous sommes incroyants, et parfois même à notre corps, voire à notre âme défendant. Alors, Marc Alizard, peut-être que vous pourrez nous expliquer, pour commencer, pourquoi cette idée saugrenue vous est venue d'écrire ce livre, donc Pop Théologie. J'ai oublié de dire tout à l'heure que c'était publié au PUF.
Et je me le demande parfois encore aujourd'hui, mais c'est une démarche qui s'inscrit complètement dans l'intérêt que je porte à la création. Vous avez souligné la création contemporaine. J'ai travaillé et je travaille encore auprès de créateurs d'artistes contemporains, notamment de plasticiens. J'ai été témoin de débats, de grands débats sur la valeur de l'art contemporain, et par extension...
La non-valeur de l'art contemporain, éventuellement.
La non-valeur de l'art contemporain et par extension la valeur de la culture contemporaine dans son sens large, hein, de la pop culture. C'était au cœur du livre dont vous avez parlé, hein, la revue plutôt Pop Fresh Theory qui rassemblait déjà des intellectuels autour de cette question du contemporain. Et est-ce qu'il y avait une manière d'appréhender le contemporain qui ne soit pas réactionnaire sans être pour autant servile et qui puisse rendre raison la pop culture et de la société de consommation, la société du spectacle, cette société dans laquelle nous sommes, dont nous profitons confortablement, dans laquelle nous épanouissons, est-ce qu'il était donc possible d'en rendre raison d'une manière différente que celle qui était à notre disposition à l'époque, qui était essentiellement décliniste, désenchanteresse, nihiliste, voilà. Et sur ce chemin, pourquoi je tombe sur le protestantisme? Bien parce qu'en fait, cette démarche intellectuelle, elle a déjà été engagée bien avant nous, à la fin du XVIIIe siècle, et elle s'est prolongée jusqu'au début du XXe siècle, et a subi ensuite une petite éclipse que j'essaie justement de, à laquelle j'essaie de mettre un terme. Très modestement, c'est une démarche qui, par exemple, porte le nom d'un grand sociologue comme Max Weber, qui, dans un livre fameux, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, a montré qu'un certain nombre de comportements qui pouvaient nous sembler strictement matérialistes, hein, et strictement guidés par l'intérêt, la soif de l'or, l'auri sacra fames, comme disaient les Latins, est en réalité guidé par des principes que Weber dit irrationnels, qui n'ont rien à voir avec l'avarice, avec la peur de manquer, avec l'envie, la gourmandise, tous les péchés capitaux et j'en oublie, mais que c'est en fait une démarche qui s'inscrit dans une disposition ascétique, dont il relève les traits les plus importants, les plus déterminants dans le calvinisme.
Oui, alors justement, ça c'est très frappant. C'est-à-dire que vous partez d'ailleurs dès le début du livre de ce paradoxe, de dire finalement notre société de consommation, qui semble être, en tout cas en apparence, hein, tout un chacun pense que la société de consommation c'est l'exact contraire de l'ascétisme, eh bien vous semblez, et vous montrez de manière assez convaincante qu'en réalité elle en est le produit. Alors expliquez-nous comment on en est arrivé là.
Alors ça demande précisément de surmonter l'éclipse weberienne. Hein. La théorie de Weber, elle s'applique à la société de production.
Oui.
Pas de consommation. Pour Max Weber, comme beaucoup de ses contemporains aux alentours des années 1915-1920, qui sont des années terribles, la société productrice capitaliste classique protestante est terminée. Elle est finie. L'esprit du protestantisme s'en est allé. Alors, c'est un peu plus complexe. En réalité, il s'est tellement bien implanté que il a gagné le monde, et le monde est désormais victime, en quelque sorte, d'une sorte de pensée mécanisée, matérialiste. Il n'y a plus d'esprit. À l'intérieur même du protestantisme, il n'y a plus d'esprit. Et c'est un livre très désenchanté, en fait, l'éthique protestante, l'esprit du capitalisme. C'est d'ailleurs, Max Weber est l'inventeur du mot désenchantement du monde. Hein, on le sait pas, mais et c'est un mot qui a un double sens chez lui, hein, démagification du monde, qui est un sens positif, qui vient du protestantisme, et puis un mot négatif, qui vient plutôt de Nietzsche, et qui va vers le nihilisme. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que la société de consommation relève encore de la même analyse weberienne ? Alors au prix d'une sorte de double torsion. La première, elle consiste à voir que dans les processus de consommation, d'un point de vue purement sociologique, il y a aussi de l'ascèse. Hein, on parle souvent du sacrifice qu'on fait pour s'offrir une paire de chaussures, un voyage lointain. C'est assez drôle de penser qu'au fond, pour jouir, on doit sacrifier des choses, et que ce qu'on porte même au pied, ce soit le sacrifice même. Donc une démarche ascétique qui a consisté à renoncer à certains plaisirs pour en avoir d'autres. Bon. Ça, c'est un des aspects des choses. On sait aussi que la société, plus largement, par exemple, du développement personnel, de la construction de soi, du sport, ce sont des sociétés aussi où une valeur ascétique est très forte, hein, le dépassement de soi. Chez un jogger, un marathonien, il y a une souffrance qui est aussi un plaisir qu'on s'inflige. Alors, contrairement aux époques antérieures, pour rien, j'ai envie de dire, pour soi. Ce n'est pas un match. Hein. Norbert Elias a beaucoup écrit sur le sport comme rivalité, comme mise en tension de la violence sociale, à travers la rivalité symbolique, à travers deux équipes qui s'affrontent, deux joueurs qui s'affrontent. Le jogging, la gymnastique, le culturisme, tous ces sports contemporains, modernes, qui apparaissent en réalité au XIXe siècle, sont des moments d'ascétisme personnel. Et donc c'est tout à fait troublant.
Oui, c'est le culte de la maigreur aussi, que vous ne citez pas beaucoup, mais oui, j'ai beaucoup pensé aux mannequins sur les podiums en disant oui.
Bien sûr, bien sûr. Mais même la mode, c'est très intéressant. On pense souvent que la mode est une sorte de déchaînement, de franfreluche, de superfluité. C'est exactement le contraire, historiquement parlant. Il faut simplement avoir sous les yeux un tableau du XVIIe siècle pour voir ce que c'est que la mode à l'époque. C'est-à-dire que à la cour, on s'habille de manière complètement extravagante, avec des broches, des bijoux, des braguettes qui sont ornées de pierres précieuses, des habits extrêmement expressifs. quand la mode va apparaître au 19e siècle, avec notamment des couturiers anglais, et puis sous l'influence du dandysme, Baudelaire va avoir cette phrase, il va dire les dandys sont les ascètes des temps modernes. Parce que c'est quoi un dandy ou quelqu'un qui fait de la mode à cette époque-là? C'est quelqu'un qui renonce à cette expressivité du vêtement au profit du style, au profit d'une expressivité en quelque sorte intérieure. Hein. Le dandy, c'est quelqu'un qui cire l'intérieur de ses chaussures. C'est quelqu'un qui fait attention à la doublure de son veston et qui est même plus soucieux de ça que de l'apparence extérieure qu'il donne. Donc on a un vrai renversement. Hein. La mode contemporaine est en fait un vrai renversement de la mode traditionnelle et en ce sens aussi quelque chose qui va vers l'ascétisme. Alors après, je disais une double torsion. La première, donc, elle consiste à voir que sociologiquement, il y a des traits ascétiques que Weber avait reconnu dans la société de production qui demeure et qui se sont déplacés dans la société de consommation. Et la deuxième torsion qu'il faut opérer pour comprendre ça, c'est faire quelque chose que Weber n'a pas fait, ou pas suffisamment fait à mon sens, que Troeltsch, son contemporain, a mieux fait, qui est de considérer que le calvinisme n'est pas tout seul, qui n'explique pas tout, que la réforme a connu de nombreuses transformations dans son histoire et que les mouvements les plus actifs, les plus pertinents pour comprendre ce déplacement des dispositifs ascétiques, ce sont ce que vous avez appelé donc les réveils, qui ont leur origine dans le piétisme et qui sont donc tout un continent, j'ai tendance parfois à dire englouti, disparu de la connaissance, de notre connaissance de l'histoire culturelle de la modernité.
Alors peut-être pour nos auditeurs, on va faire un peu d'histoire quand même, puisque vous venez d'évoquer ces mouvements-là. Peut-être avant même d'en arriver au piétisme, après au méthodisme, etc., donc tous ces mouvements de réforme de la réforme, d'une certaine façon, commencer par le commencement de l'affaire, c'est-à-dire en quoi est-ce que la réforme de Luther amène une révolution tellement radicale que nous vivons encore sous sa coupe, ou en tout cas sous son énergie réformatrice. Marc Elisard.
D'abord, il faut dire que la révolution, c'est le christianisme. Au sens propre, enfin, au sens d'abord premier, c'est Paul. Hein, Saint Paul, pour les catholiques.
Que vous citez abondamment, d'ailleurs.
Paul est la personne clé de cette histoire. Hegel disait qu'il est le gond autour duquel tourne l'histoire du monde. Bon, c'est l'apparition de la foi comme motif de réalisation de la loi. Et c'est une nouvelle alliance donc, hein, qui se crée avec le divin. L'obéissance aux ordres divins n'est plus première. C'est la foi, c'est-à-dire la confiance dans le fait qu'on est déjà sauvé, qui induit le salut. C'est une pensée absolument paradoxale, absolument fascinante. Emmanuel Carrère récemment a écrit un très beau livre pour en rappeler la bizarrerie, au fond, hein, l'exotisme, tout à fait singulier. Badiou a écrit un Saint Paul extraordinaire aussi. Oui. C'est dire aussi, si jusqu'aux communistes les plus endurcis, sa pensée continue de produire ses effets. Et Luther, au fond, c'est quelqu'un qui va se contenter, si j'ose dire, de répéter cette parole absolument fantastique, vous êtes déjà sauvé. Vous êtes déjà sauvé si vous croyez que vous êtes sauvé. Et il va le faire à un moment où cette parole va avoir un maximum de résonance, puisqu'il le fait à un moment où l'Église catholique, donc dépositaire du message paulinien, est en crise. Et Luther est un moine, hein, au départ. Quelqu'un qui veut sauver son âme et qui retrouve en lisant Paul un jour dans une forme d'illumination qu'il est déjà sauvé, qu'il n'y a pas de mortification, qu'il n'y a rien à faire en quelque sorte. Il est à la fois toujours déjà pécheur, et c'est la particularité du protestantisme, c'est une sorte de vision très tragique hein, du sort de l'homme, mais c'est parce qu'il est déjà pécheur et dans la mesure où il est intégralement pécheur et qu'il assume totalement de l'être et qu'il sait qu'il ne peut rien faire pour changer cet état de fait, sauf avoir confiance dans le fait que Dieu veut son salut et que Christ est mort pour racheter ses péchés, qu'il est sauvé. Et ce jour-là, Luther quitte littéralement la robe, hein, devient un moine défroqué, prend femme et vit dans le monde.
Mais alors, vous précisez bien que ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a cette théologie de la grâce que ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, au contraire.
Alors non, parce que en fait c'est une rupture avec ce que Luther considère comme une sorte d'économisme du salut. C'est-à-dire que quand on pense qu'on doit faire des choses pour être sauvé, on est dans une économie du salut. Et le libertin, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui pense puisque ces économies qu'il fait ici ne lui apporteront rien au-delà, eh ben, il faut qu'il dépense tout son capital aujourd'hui. Mmh. Mais c'est encore quelqu'un qui dépense. C'est une pensée comptable, en fait. Et Luther est contre la compte. C'est bizarre, d'ailleurs, c'est un des grands paradoxes du protestantisme. Mais le luthéranisme est un anti-économisme. Et il va donner lieu à une économie nouvelle, le capitalisme.
On va de paradoxe en paradoxe.
On va de paradoxe en paradoxe. Oui. Mais c'est vrai, hein, c'est le paradoxe, il est d'abord, on va dire, dans Paul, et puis ensuite, il se diffuse dans toute la culture. Le capitalisme vient prendre Luther à rebours, hein. Luther n'est pas un capitaliste, mais la particularité du luthéranisme, qui est donc d'aller dans le monde, de travailler, et mais malgré tout de ne pas jouir de ce monde comme un libertin, comme un hédoniste, conduit à faire en sorte que des excès, des surplus s'amassent. Mmh. Et que plus il y a d'excès, plus il y a de surplus, plus en quelque sorte le protestant est saint. Mmh. Et justifié.
Ouais, il faut en faire quelque chose quand même de ce surplus.
Et ben ce surplus, ouais, est réinvesti. Voilà. Il est réinvesti, il n'est jamais consommé, il ne donne pas lieu à une jouissance, et c'est en ce sens qu'on peut dire que le premier protestantisme est d'abord une société de la production et une société de l'ascétisme dans la production. C'est au terme d'une nouvelle révolution dans la réforme que ce surplus non consommé, et qui donne donc lieu au capitalisme, à l'accumulation du capital, mm-hmm, hein, Marx d'ailleurs en fait aussi, hein, sa source, on ignore qu'il y a un théologien caché dans Marx.
Oui, alors ça c'est effectivement une partie aussi très intéressante de votre livre, c'est tous ces chapitres que vous consacrez. Alors précisément on va brosser un tableau relativement rapide, mais quand même c'est très important de le rappeler, parce que j'avoue que j'ai découvert énormément de choses. Je me faisais une idée relativement monolithique du protestantisme, et je me suis rendu compte à quel point ça a travaillé, et ça nous a travaillé encore une fois sans forcément que nous nous rendions compte à quel point ça continue à nous travailler. Alors, donc commençons par ces mouvements qui vont vouloir réformer la réforme, ou en tout cas en retrouver l'esprit véritable. Et ça se passe au début en Angleterre et en Allemagne.
Oui, vous avez raison, il n'y a pas de protestantisme au singulier, hein. Il y a des protestantismes pour la raison simple que la réforme, qui est au commencement du protestantisme, est un mouvement à faire en permanence. Luther le dit, l'Église réformée est toujours à réformer, c'est un effort à faire sur soi-même. Et donc les successions de générations protestantes seront à l'image des nouvelles vagues, des avant-gardes qui dans l'art aujourd'hui sont leurs équivalents en quelque sorte, hein. Il y a à chaque nouvelle génération de protestants une nouvelle vague qui revisite l'héritage protestant et qui a tendance à considérer que l'esprit d'abord vivace, le feu luthérien se pétrifie, se rigidifie, s'éteint. La société retombe dans sa mollesse en quelque sorte, les vieilles habitudes reprennent le dessus et donc il faut
le matérialisme
qui vient en quelque sorte jouer comme une sorte de paradoxe dynamique, hein. Le protestant doit vivre dans le monde pour témoigner de sa sainteté, mais en vivant dans le monde il se distingue pas d'un mondain, hein, mm-hmm, qui est le mot de référence de l'époque pour désigner les gens qui vivent dans le monde, et puisqu'il ne se distingue pas d'un mondain, il doit refaire en quelque sorte la réforme. Mm-hmm. Et on est dans cette dynamique, dans cette dialectique permanente qui va culminer au XIXe siècle, parce que le XIXe siècle n'est plus seulement la mondanité qui a gagné les cœurs et les esprits des hommes individuels, mais ceux de l'époque entière. C'est l'époque de la révolution industrielle, c'est l'époque où la société entière a tendance à se pétrifier, à se rigidifier, c'est les exodes ruraux, c'est l'urbanisation, c'est l'apparition d'un nouveau mode de vie, des machines, de la technologie, et tout ça va créer une sorte de panique protestante, en quelque sorte, dont j'ai parlé au commencement avec Weber. Hein. Weber est totalement pris dans cette panique protestante, qui consiste à dire le monde est en train de se pétrifier. Ce que Weber ne dit pas, c'est que c'est un leitmotiv du protestantisme. Mmh. Hein. Le protestantisme n'a cessé de dire que le monde se pétrifiait.
Et ce que vous dites à la fin de votre livre, c'est aussi que d'ailleurs la panique va être réinvestie pour comme voie de salut d'une certaine
absolument.
Façon contre la société cybernétique.
Absolument, on n'en sort jamais de cette panique protestante. C'est quand vous disiez on est protestant quand on ne l'est pas ou qu'on déteste les protestants ou l'Amérique ou je ne sais quoi. On sent le sang. Bon, inconsciemment, on reprend des motifs qui sont au cœur du protestantisme. Les premières critiques de Babylone, de Babel, de l'effondrement, de la corruption, de la civilisation, elles sont chez les protestants. Hein. Elles sont chez Rousseau, le premier critique de la civilisation, c'est quand même Rousseau, au sens moderne du terme. Mais il y en a avant, les piétistes n'ont de cesse de dire que la société est aux mains de... va s'effondrer comme l'ancienne Babylone, corrompue par le crime et le vice. Et notamment les piétistes, vous le disiez. Donc la première grande réforme de la réforme, hein, c'est donc le piétisme. Et c'est un mouvement allemand qui est d'une importance absolument, absolument, absolument centrale et qui est tellement méconnu que c'en est triste, quoi, pour la compréhension de ce qui s'est joué dans la modernité, voilà. Et de notre modernité.
Oui, c'est pour ça qu'on prend le temps quand même de bien expliquer.
On peut pas comprendre le romantisme sans le piétisme, par exemple. C'est absolument impossible. Le piétisme, c'est quoi, en gros? C'est un effort supplémentaire qui est demandé aux réformés pour trouver la foi, trouver le salut, mais le trouver dans une forme de deuxième naissance de son vivant. Il va devoir donc refaire ce travail de son vivant consciemment et se construire un corps nouveau, et qui sera un corps purifié, en quelque sorte. Et ça va se faire, donc c'est une corporalisation, on va dire, de la réforme. C'est très important parce que la notion d'enthousiasme, par exemple, dans le piétisme, est très importante. Le piétisme, pour les juste étymologiquement, ce sont tient son nom de petits cercles pieux, hein, de piété, qui se réunissaient entre eux pour s'exalter dans la foi. Et chanter ensemble. C'est un mouvement d'ailleurs qui est absolument européen, qui n'est pas réservé à la réforme. Le hassidisme, à la même époque, le soufisme, autour du XVIIe, XVIIIe siècle, sont des mouvements qui traversent absolument le monde et qui réorganisent la religion autour de ces notions d'affectivité, de sensibilité, de sensitivité au religieux. Il y a une sorte d'intuitionnisme du religieux. On doit sentir Dieu en soi, et ça va donner lieu, par exemple, au pentecôtisme, hein, l'idée qu'on a l'esprit en soi, les glossolali, les manifestations très parfois presque hystériques de foi qu'on connaît aujourd'hui dans les religions contemporaines, l'évangélisme par exemple américain, le baptisme. Voilà, ça naît à cette époque-là, hein, et c'est vraiment crucial parce que c'est un tournant aussi dans l'histoire culturelle. Et le piétisme va avoir un contre-coup, un contre-choc, encore un siècle et demi plus tard, qui va alors d'une importance, lui, j'ai envie de dire en plus, sociopolitique capitale, qui est le méthodisme. Vous avez dit quelques mots. Le méthodisme, c'est intéressant, c'est une histoire complètement singulière. Un homme, John Wesley, totalement isolé, qui fait partie de l'église anglicane, mais enfin, qui est un jeune pasteur, tout d'un coup, a la vocation, qui doit réveiller les protestants. Que les protestants se sont assoupis, toujours ce thème, hein, l'assoupissement protestant, l'assoupissement social, et que sa mission est donc de les convertir à nouveau, de les réveiller à leur propre foi, et c'est pour ça que vous avez employé le mot réveil. Réveil remplace progressivement réforme. Et il va y parvenir. Contre toute attente, on est en 1760, il lance son mouvement, le méthodisme, avec son frère Charles. Ils sont deux. Charles va écrire des chansons. Il va écrire des milliers de chansons, parce que c'est, comme je l'ai dit, une foi qui va essentiellement passer par l'enthousiasme communicatif, la communion, la chanson, le gospel, on pourrait dire. C'est quelqu'un qui va prêcher en public, dans les forêts, devant les églises, devant les temples, qui va prêcher aux paysans, qui va prêcher aux ouvriers, qui va prêcher dans toute cette Angleterre désœuvrée, déboussolée par la révolution industrielle, cassée, et également fracturée par un protestantisme qui s'est aussi embourgeoisé. Hein,
ossifié dans l'anglicanisme, quoi, en quelque sorte.
Voilà, et puis qui on dit en Angleterre, on appelle ça la High Church. High Church and Low Church, qui a donné naissance à la distinction ensuite culturelle entre High Culture et Low Culture. Donc, il fait partie de la Low Church.
De la pop church.
On pourrait dire absolument de la pop church, mais bien sûr, c'est quelqu'un qui va réunir au Crystal Palace, qui est l'ancêtre du Grand Palais à Paris, un grand lieu comme ça de verre, des dizaines de milliers de personnes pour des grandes effusions de sentimentalité religieuse, hein, qui sont les ancêtres du concert pop, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Oui. Et la musique de Charles Wesley est encore chantée aujourd'hui en Angleterre, Céline Dion ou d'autres chantent Charles Wesley, on ne le sait pas, mais enfin c'est ça qu'on chante à Noël en Angleterre. Mmh. Mais ce qui est très important, c'est que donc ce réveil va prendre comme une traînée de poudre. L'Angleterre va compter des centaines de milliers de réveillés en l'espace d'une dizaine, une trentaine d'années.
Mais ça, vous donnez les chiffres, alors là, j'avoue
c'est
que
du jamais
c'est
vu.
Foudroyant.
C'est du jamais
c'est
vu.
C'est une success story incroyable.
C'est du jamais vu dans l'histoire des religions. La manière dont le réveil se répand en Europe puis aux États-Unis n'a pas de précédent. Et donc le réveil va aller en Allemagne, il va évidemment rencontrer le piétisme qui lui a fait un accueil tout à fait favorable. Il va arriver en France, où il va s'implanter avec plus de difficultés puisque la France est le pays catholique qu'on sait, mais il va tellement inquiéter les autorités qu'on en a un témoignage tout à fait troublant, amusant. Alphonse Daudet a écrit un roman sur les méthodistes qui viennent enlever les femmes de nos familles pour les convertir à une étrange religion, une étrange secte.
France Culture, les racines du ciel, Lévi Onvar. Il y a une sorte d'anti-américanisme primaire en France qui s'adresse particulièrement au mouvement, alors maintenant on dira les mouvements évangélistes, mais en fait c'est le même phénomène, comme si on se méfiait fondamentalement de cette forme-là de religiosité.
Ça date de 1870. Voilà, la date clé encore dans l'histoire que le protestantisme, une histoire culturelle protestante permet de ressaisir dans l'histoire des mœurs, des mœurs modernes et particulièrement de la France, c'est 1870. La France est fascinée par le protestantisme. Quand je dis la France, les élites françaises intellectuelles, les Lumières, les hommes politiques, les romanciers, Madame de Staël, Renan, Michelet, sont absolument fascinés par le protestantisme jusqu'en 1870. Pourquoi ? Parce que les révolutions américaines et anglaises qui ont précédé la Révolution française sont des révolutions protestantes. Et que face aux difficultés que connaît la Révolution française tout au long du 19e siècle, des restaurations, légitimisme, Révolution de 48, etc., et bien ils ont le sentiment que c'est par un défaut de culture protestante que la Révolution française échoue à s'imposer. Donc de l'Allemagne. Si j'avais été protestant, enfin, Michelet écrit des choses extraordinaires, Renaissance ou Réforme, c'est vraiment le grand sujet du moment, jusqu'en 1870. Pourquoi ? Parce qu'en 1870, Bismarck lance les hostilités, et que la défaite absolument cuisante va conduire les Français à se retourner violemment contre les Allemands et à détester tout ce qui peut de loin ou de près ressembler au protestantisme. Et alors là, c'est retournement complet. On va chez Zola, chez Maurras, chez Barrès, des pamphlets anti-protestants terribles, qui vont, à mon avis, effectivement, fermenter, enfin, féconder cet anti-américanisme pour très longtemps. Mmh. Mais pour terminer sur l'Amérique et sur le méthodisme, effectivement, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le méthodisme, oui, se développe essentiellement aux États-Unis. Il quitte l'Angleterre et l'Allemagne et l'Europe, la vieille Europe, et va devenir la religion quasi principale des États-Unis pendant quelques années, en tout cas la première église nationale et méthodiste. Baptistes et méthodistes vont compter quasiment pour 60 ou 70% de la population. Et ça veut dire que le méthodisme va devenir en réalité la première religion indigène des États-Unis. Contrairement à ce qu'on pense, le calvinisme n'est pas la religion native des États-Unis. Elle l'est du point de vue historique. Ce sont des Hollandais et des Anglais qui longtemps tiennent les rênes du pouvoir, et encore aujourd'hui d'ailleurs des épiscopaliens de la côte Est qui tiennent les rênes du pouvoir américain. Mais les Américains se sentent méthodistes, c'est-à-dire baptistes, réveillés, born again. Ils ont une culture très très différente du protestantisme que celle qu'on connaît. Et le conflit entre ces deux protestantismes, le protestantisme européen, anglican, et le protestantisme américain indigène, venu d'Angleterre, bien qu'il soit venu d'Angleterre, j'ai envie de dire plutôt, est un conflit qui permet d'expliquer beaucoup de lignes de fracture et beaucoup de lignes de faille de l'Amérique, qui permet aussi de complexifier ce grand continent qu'on a parfois tendance à considérer, alors de manière là aussi paradoxale, mais ce paradoxe ne vient pas de moi pour le coup, soit comme le grand continent du nihilisme et de la décadence, Babylone, pour reprendre les termes en vigueur, soit comme le grand continent religieux, menaçant, théocratique, qui resterait
sur la Bible,
dans,
etc.
Voilà, exactement.
Oui, alors justement, le fait que ça devienne cette religion si prégnante aux États-Unis, c'est de là que finalement, j'appelle ça le réveil, parce que c'est pas le méthodisme qui va ensuite envahir le monde, mais bien cette culture qui émane du méthodisme et qui a ces caractéristiques que vous décrivez très bien dans le livre, qui vont entrer dans les productions culturelles américaines et qui vont, par là même, alors là on va un peu vite dans les siècles, hein, vous consacrez de nombreux chapitres pour montrer justement ce passage qui se fait évidemment très progressivement, mais je voudrais quand même pas qu'on termine l'émission sans parler du cinéma et de Star Wars, etc. Je disais, ce méthodisme, selon vous, imprègne, et vous donnez des exemples extrêmement convaincants de cela, donc imprègne la culture américaine même à des niveaux qu'on n'imagine pas du tout. Et quelles sont ces caractéristiques si spécifiques à la culture américaine qui viennent du méthodisme, Marc-Elisa ?
Bon, c'est assez simple. La caractéristique principale du protestantisme classique, c'est le berouf, le travail, la vocation entendue comme travail. C'est-à-dire, on l'a dit, hein, dans le travail, le protestant se réalise, sa vocation et son salut. Le concept clé du méthodisme, c'est la Bildung. La Bildung, c'est la formation de soi, c'est-à-dire un travail aussi, mais un travail intériorisé, un travail qui vise non pas à fabriquer des choses, mais à se fabriquer. Et c'est cette fabrication de soi, je vais parler de deuxième naissance, qui est absolument fondamentale et qui permet d'articuler les différentes... la raison principale pour laquelle la société de consommation va devenir une société d'assaise, au fond. Consommer, c'est se travailler, c'est s'agrandir, c'est s'accroître, hein, c'est ingérer, digérer des choses. Et c'est par là, accroître sa quantité d'être, et donc sa quantité de salut. Pour être plus pragmatique, la naissance du sport, j'en parlais brièvement, est une véritable deuxième naissance aussi, hein. Le sport moderne apparaît dans les Young Men's Christian Associations, les YMCAs, qui sont des lieux où la jeunesse un peu désœuvrée vient retrouver refuge, l'évangile par le sport devient quelque chose de très naturel, parce que le sport est considéré comme une activité sainte, mais ça ne pouvait être le cas qu'à travers cette réconciliation avec le corps qu'opère le méthodisme. Traditionnellement, le corps dans les religions est plutôt quelque chose qu'on expulse et qui est loin de nous, mais à partir du moment où se faire un deuxième corps, se faire une deuxième naissance, c'est quelque chose de sacré, évidemment la question du sport, la question du corps saint, qui va être aussi se développer aussi à travers le le nudisme, le naturisme, la société du tourisme, les bains de mer. Par exemple, cette expression que je crois que j'emprunte à Pascal Horry, qui l'a soulevé, bronzer, être bronzé pendant longtemps, étymologiquement, c'est ressembler au bronze. Hein, c'est avoir un corps ductile, dur, mais en même temps plastique, qui est l'idéal du corps protestant de l'époque, hein, qui n'est pas un corps de pierre mortifère, mais qui n'est pas non plus un non-corps, on pourrait dire catholique, mais qui est un corps plastique. Et c'est à la recherche de ce corps que le sport nous emmène. On va s'appuyer sur des textes de Paul encore, notamment les Corinthiens, dans lesquels il dit que le corps est le temple de l'âme. Et on va trouver des clubs de football qui s'appellent les Corinthiens. Bon, à Sao Paulo, au Brésil, donc la ville de Saint-Paul, littéralement parlant, le premier club de football s'appelle toujours les Corinthiens. Mmh. Et un des premiers clubs de football anglais s'appelait les Corinthiens. Il y a même une expression qui va être forgée à l'époque par un pasteur, qui est le christianisme musculaire.
Oui, cela dit, moi j'avais jamais pensé que c'était en référence à Paul, je pensais que c'était en référence à la Grèce antique.
Et non,
et aux compétitions, aux Jeux olympiques de la Grèce antique.
Mais vous avez raison, parce qu'on pense souvent que c'est la référence, et quand on parle de sport, on pense que les Lumières ont redécouvert Sparte et Delphes et la Grèce antique.
Mais vous montrez que pas du tout.
Mais c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'elles ont redécouvert la Grèce parce qu'elles ont redécouvert Luther. Elles ont redécouvert la liberté, le concept de liberté qui est en fait le concept clé qui est au cœur de la foi chez Paul, chez Luther et après.
Et chez les méthodistes en l'occurrence.
Chez les méthodistes. Et c'est la liberté grecque qui va être remoulinée par cette... C'est ce qui fait que les Allemands vont croire qu'ils sont les descendants des Grecs. Mais c'est une illusion totale, mais qu'on va retrouver chez Carus, chez beaucoup de peintres néoclassiques, chez Goethe. Et donc dans cet idéal sportif, oui bien sûr.
Alors justement, donc on a dit liberté, travail, construction de soi. Alors c'est vrai que vous avez des pages très intéressantes sur le fait que aujourd'hui, en France même, où on résiste beaucoup au sport quand même, hein, beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons, précisément dans les pays protestants, mais néanmoins, on a par exemple un développement immense de tout ce qui est la littérature du développement personnel, et vous montrez que ça, c'est vraiment ancré dans l'éthique protestante, dans ce que vous appelez justement le Bildung, qui est un mot allemand d'ailleurs, qui vient du piétisme allemand et qui ensuite a voyagé outre-Atlantique et nous est revenu sous la forme de cette puissance éditoriale en fait que ça représente.
Oui. Le maître mot de la Bildung, pour y arriver, c'est lâcher prise. Hein. Quand j'ai parlé de foi, il faut bien entendre ce qu'il y a dans le mot foi. Dans le mot foi, il y a confiance, il y a lâcher prise, il y a se laisser porter, c'est laisser faire. Et ce lâcher prise, c'est évidemment le maître mot du développement personnel contemporain. C'est pour ça que j'ai aussi des réserves quand on parle par exemple de l'orientalisme ou du zen comme étant ou du New Age comme étant la religiosité contemporaine. Il y a évidemment un grand intérêt pour le zen qui s'est exprimé notamment en Californie dans les années 50 et pour l'orientalisme un petit peu avant au 19e siècle à des grands moments justement de crise du protestantisme, du christianisme au moment où on cherche, où on se dit mais enfin c'est pas possible ce christianisme qui nous emmène tout le temps dans le mur, comment on va en sortir? Et en réalité, on en sort toujours par la même porte par laquelle on est entré. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on retient dans le zen? Bon, le zen, c'est très complexe d'abord. C'est une religion, il y a des dieux, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de courants. Mais on retient une seule chose, qui est le zen, lâcher prise.
Et vivre l'instant. Oui,
et vivre l'instant, et la pleine conscience. Et tout ça. Bon, c'est très intéressant, et ça prouve aussi l'unicité universelle, j'ai envie de dire, des religions, qui n'est pas non plus contestable. Hein. Mais dans le point de vue occidental sur les religions, tel qu'il est assimilé, on peut pas faire la part de notre propre héritage et notre propre manière de le transformer, voire de le trahir.
Alors, donc, on disait, il y a le développement de soi, il y a la liberté, et puis il y a aussi cette idée qu'il faut non seulement se sauver soi-même, mais aussi sauver le monde. Et là, vous avez des pages tout à fait intéressantes sur les thèmes, en fait, du cinéma américain, qui sont toujours reliés à cette double salvation, je dirais, qu'elle a se sauver soi-même et sauver le monde. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films français dans lesquels le héros est censé sauver le monde d'une attaque, quelle qu'elle soit, alors qu'en Amérique, c'est un topos cinématographique permanent. Alors, venons-en à ce cinéma qui est quand même vraiment au cœur de votre sujet. Vous en parlez beaucoup et vous dites d'ailleurs que c'est vraiment s'il y a un art qui réanime les arts sacrés du passé, c'est celui du cinéma. Alors expliquez-nous comment et pourquoi ça se passe à Hollywood. dans des studios au demeurant avec des producteurs qui sont plutôt des juifs exilés d'Europe, mais qui néanmoins vont se faire les champions en fait de cet idéalisme protestant d'une certaine façon.
Oui, c'est encore un phénomène paradoxal et passionnant. Le cinéma n'avait absolument rien à faire dans cette histoire, ne serait-ce aussi que parce que les images sont condamnées depuis fort longtemps, et surtout celle-là. D'ailleurs, les ligues protestantes et catholiques vont d'abord s'opposer très fermement au cinéma et à son impiété. Hein, les ligues de censure. En réalité, il va se passer une sorte d'hybridation tout à fait étonnante. Qu'est-ce qui se passe? On le voit chez quelqu'un comme Walt Disney, par exemple.
Ça, c'est extraordinaire. Racontez-nous l'histoire de Walt Disney.
Walt Disney théorise. Walt Disney est un protestant pratiquant, conservateur, même très réactionnaire, pour pas dire pire.
Et congrégationniste.
Oui, absolument. Bon, c'est encore une des multiples filiales possibles du protestantisme, qui s'est épanouie aux États-Unis. Et lui a une théorie très simple, c'est que son métier, c'est de permettre aux grands, aux grown-ups, aux grandes personnes, aux personnes grandies plutôt, de retrouver leur part d'enfance. Bon, ça c'est tout à fait évangélique, parce que eux, les enfants, le royaume des cieux leur appartient, et cela en leur permettant de lâcher prise et d'avoir confiance. Et la salle de cinéma, c'est un objet, un dispositif très intéressant. On rentre dans le noir, on rentre dans l'enfance, effectivement, on s'allonge un peu, on est passif, et on est obligé de faire confiance à l'image, de rentrer dans l'image, de faire un effort, laïque certes, mais qui a des sources ascétiques anciennes, de lâcher prise, pour laisser pénétrer en soi le rêve, la magie, qui va faire de nous un enfant. Et non seulement le dispositif donc, du cinéma emprunte à cette messe laïque, à cet office laïque, mais le contenu du cinéma aussi en parle. On va voir que les héros des films américains sont souvent des gens qui sont un peu des enfants, des gens sains, des gens ordinaires, qui par leur anonymat même vont réussir effectivement à renverser une société qui est quoi? Qui est une société pétrifiée, de nouveau, catholicisée, anglicanicisée. Luke Skywalker, c'est le garçon qui va mettre bas l'étoile noire de Dark Vador. Et Dark Vador, c'est quoi? C'est son père, c'est-à-dire qu'historiquement, c'est effectivement quelqu'un de plus ancien que lui, peut-être un Anglais. D'ailleurs, il a un accent anglais. Tous les méchants dans les films américains ont des accents anglais. C'est quand même tout à fait stupéfiant.
Oui, alors ça, moi, je l'avais toujours remarqué, mais l'explication que vous donnez est extraordinaire.
Mais parce que la société américaine est une société fracturée qui a gagné son indépendance contre les Anglais et qui a donc gagné son indépendance à travers un protestantisme indigène. Le méthodisme, qui est un protestantisme, on va dire, effusif, sentimental, simple, comment dire, contre un protestantisme sophistiqué, intellectuel,
et surtout
légal, oui. Légaliste et institutionnel, bureaucratique. L'anglicanisme, c'est quand même pour les Américains une horreur. C'est-à-dire que c'est une tentative de synthèse entre l'Église de Rome et le protestantisme. Et on retrouve dans l'étoile noire de Dark Vador cette personne plus mystérieux qui est l'empereur, qui est en fait le pape et qui est celui qui a instillé le poison du côté obscur dans Dark Vador, qui était au départ un bon protestant. Donc c'est pour ça que je fais l'hypothèse que c'est Cromwell, Dark Vador, c'est-à-dire que Cromwell est une personne très controversée dans le monde anglo-saxon parce que c'est à la fois un protestant extraordinaire, une sorte de Robespierre qui a libéré en quelque sorte l'Angleterre et qui est le ferment de la révolution anglaise démocratique, mais c'est aussi un terrible massacreur.
Oui.
Terrible.
Habillé de noir.
Habillé d'une grande robe noire et qui va finir sa vie dans un bain de sang. Et je pense que cette figure, elle hante la mythologie anglo-saxonne. Donc effectivement, si on n'a pas ces idées en tête, on a du mal à se faire un chemin dans ces films qui peuvent paraître eux aussi des films syncrétiques, mythologisants, allant dans tous les sens. Non, c'est des films qui sont très ancrés dans une réalité historique qui a 2, 3, 4 siècles d'âge.
Oui. Oui, et puis cette histoire dans la construction de soi dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que ce sont des films d'initiation, à défaut de romans d'initiation, dans lesquels il s'agit quand même d'avoir la foi. Et la fameuse scène entre Luke Skywalker et Dark Vador, c'est précisément ça. Il faut croire dans la force, sinon ça marche pas.
Et oui, il faut croire dans la force. Et le leitmotiv du cinéma américain, c'est « believe ». On va trouver ça dans un nombre innombrable de films, dans Matrix, dans Star Wars, mais aussi dans Kung Fu Panda, dans les films pour enfants, des films pour grands, des films anciens, dans Monsieur Smith au Sénat. C'est believe, croire, c'est la clé. C'est la clé de la spiritualité américaine, et c'est aussi le mot-clé de la philosophie américaine. Emerson, William James, j'en ai parlé, les pragmatistes américains sont des gens qui ont voulu faire la réforme aussi, une réforme de la réforme de la réforme, si vous voulez, mais qui, encore une fois, est ancré dans ce mot simple, ce mot-clé, believe, qui vient résumer toutes les contradictions, tous les paradoxes et tous les espoirs d'émancipation des Américains.
Oui, vous avez dit paradoxe parce que ça va jusqu'au point où normalement, believe, c'est croire en quelque chose qui vous dépasse ou qui vient d'ailleurs, ou etc. Et là, il y a une sorte de déviance qui fait qu'il s'agit maintenant plus que de croire en soi-même, fondamentalement et essentiellement en soi-même. Et donc, il y a une sorte de...
Oui,
c'est l'ego qui est quand même remis au centre.
J'entends, la critique a été faite. C'est croire qu'on peut réussir. Alors, je ne sais pas si c'est croire en soi-même, mais c'est le Just Do It de Nike est tout à fait emblématique de cette réflexion. C'est faites-le. Et ça, c'est quelque chose qui vient même de plus loin que Luther, qui vient d'Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Alors, bon... est-ce que c'est un paganisme retourné ou est-ce que c'est plutôt un retournement aux origines du christianisme? Moi, je ne sais pas, j'ai pas tranché.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Lilian Var. La semaine prochaine, nous aurons la joie et le plaisir d'être en compagnie d'Alexandre Jolien et de Frédéric Lenoir qui viendront nous parler, eh bien, de la joie, tout simplement. Il est temps maintenant de retrouver Chemin de Sagesse, la chronique de Frédéric Lenoir.
Ce que nous avons dit la semaine dernière à propos de Spinoza, sur le fait que le désir était l'essence de l'homme et qu'il ne s'agit pas d'avoir une morale extérieure qui va nous permettre de changer. Il nous dit que c'est vraiment la découverte de la joie, de ce qui nous met dans la joie, qui nous permet de changer. Et ce qui nous met dans la joie, c'est effectivement ce qui va nous permettre de nous convertir et d'améliorer notre désir. Donc il s'agit de réorienter nos désirs vers des personnes ou des objets qui nous font du bien, qui nous font grandir, qui nous mettent dans la joie. C'est toute la morale immanente de Spinoza, fondée sur la puissance du désir, surtout sur la puissance de la joie. Et donc, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai lu Spinoza, c'est que j'y ai retrouvé un parallèle étonnant avec l'Évangile. Je dis bien avec l'Évangile, je ne dis pas avec la morale chrétienne du 19e siècle ou telle que nos grands-parents ou même nous-mêmes avons pu la recevoir, qui est plutôt une morale du devoir, qui est plutôt une morale un peu triste, où on impose effectivement des normes extérieures à tout le monde sans tenir compte de la diversité des natures des individus. Et l'Église, comme le dit aujourd'hui d'ailleurs le pape François, j'y reviendrai, l'Église est devenue un peu une douane qui nous dit, voilà, vous avez le droit, vous êtes vertueux, vous agissez bien, vous faites bien votre devoir, vous avez le droit d'avoir accès au sacrement, vous êtes des bons chrétiens, puis vous agissez mal, vous n'êtes pas selon la loi, vous êtes hors des clous, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir accès au sacrement. Donc on voit très bien comment le droit canon, finalement, a rétabli des critères d'une morale tout à fait extérieure. Alors que dans l'Évangile, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Dans l'Évangile, Jésus propose un dépassement de la loi par l'amour. Et il ne cherche pas à proposer une morale qui écrase les individus, mais il cherche à les relever, à les aider à vivre pleinement, à les aider à réorienter leurs désirs. Et on est totalement dans la morale de Spinoza. Je vais vous donner un exemple très frappant. C'est l'histoire de Zachée. Zachée, c'est dans l'évangile de Luc, c'est un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, et qui collabore avec les Romains, donc il est détesté de la population, et en plus il vole les gens. Il profite de sa situation pour voler les gens, et il prend plus que ce qu'il devrait prendre. Il est détesté de tout le monde, et il vit dans un village, et un jour Jésus arrive dans ce village, et comme tout le monde, il y a une effervescence, on veut voir ce prophète qui fait des miracles, et il monte sur un sycomore, parce qu'il est petit de taille, pour voir Jésus. Et Jésus arrivant dans le village, tout le monde attend que Jésus aille vers le notable du village, le prêtre, le pharisien, celui qui est considéré comme le juste, selon les valeurs sociales courantes. Et Jésus s'arrête à l'entrée du village, il voit Zachée sur son sycomore, il lève les yeux vers lui, le regarde longuement et lui dit « Zachée, descends de ton arbre et va préparer ta maison parce qu'aujourd'hui, je vais venir déjeuner chez toi. Et ça, Zachée est totalement bouleversé. Les gens sont médusés. Pourquoi est-ce qu'il a choisi le pire individu, le pire pécheur, celui que tout le monde déteste? Et pourtant, c'est le choix qu'il fait. Et Zachée descend de son arbre. Il est tellement bouleversé par ce regard de Jésus sur lui qu'il se jette à ses pieds et lui dit « J'ai décidé de rendre tout l'argent que j'ai volé et je vais même donner le double à ceux que j'ai volés. » Donc Zachée se convertit, il se retourne, il change de vie. Et est-ce qu'il a changé de vie parce que Jésus lui a fait une leçon de morale? Pas du tout. À aucun moment Jésus l'a jugé. À aucun moment Jésus lui a dit « Tu es mal, je sais ce que tu fais, convertis-toi, repens-toi, sinon tu iras en enfer. » Ça, c'est le discours qu'on a entendu parfois après dans l'Église. C'est pas du tout le discours de Jésus. Il ne lui fait aucune leçon de morale. Il se contente de le regarder et de l'aimer. Et c'est cet amour qui va faire grandir Zachée. D'un coup, on le regarde plus comme un voleur, mais on le regarde comme une personne aimable. Et ce regard-là le bouleverse tellement que ça révèle le meilleur de lui. Et du coup, il a envie d'être bon. Et il a envie d'être bon, il a envie de donner aux autres, et sa vie va complètement changer par ce seul regard de Jésus. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a permis à Zachée de réorienter son désir. Exactement comme nous dit Spinoza, et c'est pour ça que c'est quelque chose, moi qui m'a frappé, mais ça n'a pas échappé à d'autres lecteurs des évangiles. Je pense notamment à Françoise Dolto, qui dans son très beau livre d'entretien, L'évangile au risque de la psychanalyse, appelle Jésus le maître du désir. Et je crois que c'est totalement juste. Jésus est le maître du désir. Il est celui qui sait susciter des désirs qui nous font grandir, exactement comme l'explicitera Spinoza 17 siècles après lui. Et d'ailleurs, un indice intéressant sur le mot « péché », qui est un mot très présent dans les évangiles. Jésus parle du péché qu'il est venu effectivement essayer d'éliminer. Et il n'est pas bon pour l'homme d'être pécheur. Mais qu'est-ce que veut dire le mot péché? Ce ne sont pas du tout les sept péchés capitaux, la gourmandise, etc., comme on l'a dit ensuite. Le mot péché, en hébreu, signifie manquer sa cible. Ça veut dire se tromper de cible. On n'a pas orienté son désir vers la bonne cible. Le pécheur, c'est celui qui oriente son désir vers une mauvaise cible, c'est-à-dire vers quelque chose qui le diminue, vers quelque chose qui l'empêche de s'épanouir, vers quelque chose qui le rend malheureux ou qui fait du mal aux autres. Et donc, ce que propose Jésus, c'est de réorienter son désir vers une cible bonne, vers une cible juste, qui permet à l'homme de s'épanouir pleinement et d'aimer son prochain. Et donc, on retrouve exactement cette sagesse du désir telle que nous l'avons vu avec Spinoza, à travers ce message d'évangile, ou qui est là pour faire grandir les individus. C'est pour ça que quand il est face à la femme adultère, il dit « Je ne te condamne pas, je ne te condamne pas », mais il lui sauve la vie. Il lui dit « Va désormais, ne pêche plus », c'est-à-dire réoriente mieux ton désir pour grandir, pour aller vers une vie qui sera une vie qui te donnera la vie en plénitude et qui te donnera de la joie. Et c'est pour ça que la joie, c'est le cœur de l'évangile. Il y a une sagesse de la joie dans l'évangile. Jésus dit à ses disciples « Au moment où il va mourir, je vais vous conduire vers la joie parfaite. » C'est la seule promesse que fait Jésus, c'est celle de la joie parfaite. Et lorsque des petits-enfants jouent à côté de lui et que les gens veulent éliminer, les disciples veulent faire partir les petits-enfants, il leur dit « Laissez près de moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » C'est-à-dire, le royaume de Dieu, c'est la joie. Et donc, ces petits-enfants qui sont dans la joie de vivre, ils sont pour nous des modèles de ce que nous devons tous devenir, c'est-à-dire des êtres de joie, parce que nous avons su orienter nos désirs vers ce qui nous épanouit pleinement.
Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Et dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Très bon dimanche à tous.